Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, Didier Decoin, l'écrivain et président de l'Académie Goncourt, est notre invité. Visite de bibliothèque, celle d'un poète à sa façon, Alain Bougrain-Dubourg. Il sera question d'oiseaux, mais pas que. Et puis à la fin de l'émission, je réunis toute l'équipe, comme chaque semaine, libraire compris, pour de bonnes idées de lecture. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. C'est le patron de l'Académie Goncourt, mais c'est d'abord un écrivain. Prix Goncourt, d'ailleurs lui-même, en 1977 pour John L'Enfer. Didier Decoin est de retour en librairie avec Le Nageur de Bizerte, une histoire d'amour, 1921. Histoire d'amour, mais pas que. Bizerte, en Tunisie. Tariq Ait Mokhtari est nageur, c'est lui dans le titre. Il est longiligne et musculeux, comme le décrit Didier Decoin. Il est pauvre, mais il est beau. Et voilà que débarquent les Russes, pas les Rouges, les Blancs, les exilés qui fuient la révolution d'octobre. Ils sont confinés dans le bateau, mais vous n'allez jamais me croire, il y a sur ce navire une femme magnifique. Fille unique d'un riche baron, Yelena Maximovna. Tariq la voit sur le pont. L'entend d'abord et il tombe raide dingue. La suite, c'est dans le roman. Bonjour Didier Decoin.
Bonjour Nicolas.
D'abord, pourquoi Bizerte? Pourquoi cette époque et cet épisode de l'histoire? Est-ce qu'il est vrai, cet épisode?
Alors, il est totalement authentique. Et ça ne pouvait pas arriver ailleurs qu'à Bizerte. Tout simplement parce que, bon, on a effectivement un nombre considérable de Russes blancs qui veulent fuir parce qu'ils sont poursuivis par les bolcheviks. Ils sont dos à la mer. Quand on est dos à la mer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sur la mer. Et il y a à leur disposition une flotte de vieux bateaux de guerre russes qui sont complètement rouillés, qui n'ont plus de machines, qui n'ont plus de cheminées, qui sont des horreurs flottantes. C'est le seul moyen qu'ils ont de quitter, de fuir les bolcheviks qui montent à bord de ces trucs-là. Et puis, ils ont une radio quand même, ils demandent quel est le pays d'Europe qui veut bien de nous. Et tous les pays d'Europe, avec un ensemble touchant, répondent « pas nous, retournez d'où vous venez ». Notamment les Anglais qui étaient les plus virulents. Un seul pays dit « Nous, on veut bien de vous ». C'est la France. Elle est prête à les accueillir, mais pas n'importe où. Dans un seul endroit qui est Bizerte.
Protectorat français.
Oui, mais c'est surtout parce que Bizerte, géographiquement, le lac de Bizerte. Alors, il faut essayer de voir, visualiser. Vous avez le port de Bizerte, puis ensuite une sorte de conduit, un ombilique, qui est un chenal, qui mène jusqu'à une lagune, mi-eau salée, mi-eau douce, qui est la lagune de Bizerte. Et elle est cernée par des hautes dunes de sable. Donc quand on est à l'extérieur, un bateau qui est à l'extérieur ne voit pas qui est dans la lagune de Bizerte. Et donc l'idée des Français, c'était de se dire, on va prendre ce bateau, parce que pour eux, il y avait un bateau de réfugiés, on va prendre ce bateau, on va le mettre dans la lagune de Bizerte. Si les autres, les bolcheviks veulent le tirer dessus, ils ne peuvent pas, ils ne le verront pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un bateau qui est arrivé, ils attendaient 500 au grand maximum réfugiés, ils en ont eu plus de 7000.
Voilà. Mais alors justement, vous vous êtes documenté parce qu'il y a quelques notes de bas de page, mais on se dit, bon, c'est un roman en plus, et vous êtes un romancier romanesque, c'est-à-dire que vous allez dans la fiction pure en général. Et là, il y a beaucoup d'éléments d'histoire, mais on se demande parfois si vous avez inventé, tellement c'est incroyable, ou si tout est vrai, et vous avez basé beaucoup de temps dans les archives, ou alors c'était de mémoire, et puis tant pis si c'est vrai, si c'est faux, après tout, c'est la fiction.
Ah, ça, ce serait bien de pouvoir faire comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Dieu soit loué, il y a une documentation qu'on peut trouver, notamment auprès de la Marine nationale, parce que c'est une histoire qui a duré 4 ans, de 1920 à 1924. Donc elle a laissé des traces, des dossiers. Donc il n'y a pas de problème pour avoir de la documentation. Donc tout est pratiquement vrai. La seule chose qui soit totalement inventée, c'est la relation qu'il y a entre le nageur de Bizerte et la jeune fille qui est sur la rambarde du vieux bateau de guerre, l'épave du bateau de guerre.
Alors justement, Tariq, c'est un docker, un bouchkara.
On dit bouchkara.
Et donc il va tomber amoureux de Yelena. Qui est inaccessible d'une certaine manière. Et lui, il est en bas, pauvre mais beau. Elle est riche et belle, si on veut, et fragile comme ça. C'est un motif hyper classique. Comment on fait pour s'en emparer en se disant « je vais en faire autre chose »
D'abord parce qu'on a envie de se régaler avec ce motif hyper classique. C'est à la fois le petit oiseau et le petit poisson.
Oui, voilà.
Le poisson, hein.
Exactement.
Qu'est-ce que la chanson de Gréco Et c'est aussi Roméo et Juliette. Roméo qui est en bas et Juliette qui est à son balcon. C'est exactement la même configuration. On s'en empare et puis on laisse les personnages s'inventer, eux, des dérives qui... Voilà, moi, ils m'ont parlé, ces personnages. Je ne savais pas où ils allaient. Quand j'ai commencé le livre, je savais simplement que j'aurais des vieux bateaux rouillés dans un état pas possible. Sur ce bateau, une jeune fille avec une robe blanche, ce qui est idiot sur une épave, ça se salit tout de suite. Et dans l'eau, un docker magnifique. Et j'ai été aidé par un premier élément, parce qu'à un moment, je me suis dit, il va falloir qu'ils se parlent, qu'ils se disent au moins bonjour. Mais est-ce qu'une Russe et un Tunisien peuvent se comprendre ?
Ukrainienne.
Ukrainienne. Oui.
Oh. C'est important ?
C'est-à-dire que quand j'ai commencé le livre, elle était russe.
Ah, d'accord.
Et je me suis aperçu au bout d'un moment, quand M. Poutine a
l'actualité.
Fait la chose horrible d'envahir l'Ukraine, je me suis dit, je ne peux pas avoir une héroïne russe, ça va déplaire, donc je vais lui changer son passeport. Ce qui a été plus compliqué que je ne l'imaginais. Donc elle est devenue ukrainienne et j'en suis ravi. Ça m'a permis de dire deux, trois choses sur la culture ukrainienne qui est très importante et très enrichissante pour nous. Et donc, je ne sais plus où j'en étais.
Si, c'était sur le langage.
Oui.
Puisque la Russie, pour quelqu'un comme Tariq, et la Russie et le langage aussi, c'est...
Les caractères ne sont même pas les mêmes, les lettres ne sont pas les mêmes.
On n'en a même pas idée, en fait. Il y a une phrase comme ça, un pays dont on n'a même pas idée dans votre
roman. Non, il n'en a aucune conception, aucune conscience. Mais ce qui m'a servi, c'est qu'à l'époque, les jeunes filles qui étaient éduquées dans des configurations très aristocratique, ce qui est le cas de la petite Yelena, parlait français autant que russe. Donc, en voilà une qui parle français. Quant à lui, il est tunisien, sous protectorat français, donc il parle français. Donc, tous les deux pouvaient communiquer. Youpi, je pouvais avancer mon roman. J'ai continué sur cette voie-là. Les miracles se sont succédés les uns après les autres. Et je suis quand même arrivé au bout de mon voyage, parce que c'est aussi un voyage pour moi que de me déplacer dans l'intérieur de cette histoire étrange, pathétique, à laquelle je croyais. Je me disais de temps en temps, je disais à mon entourage, à mon épouse, c'est niaiseux ce que je suis en train de faire.
Bah justement, non. Vous évitez ces écueils.
Oui,
mais, c'est
mais
un
ça,
peu...
ça me guettait comme le vautour qui vole au-dessus des malheureux qui meurent de soif dans le désert. Le danger d'une histoire pareille, qui est très romantique, c'est évidemment de sombrer dans la niaiserie, dans le côté édulcoré, trop sucré, etc. Ce que je ne voulais surtout pas, puisqu'il s'agissait en toile de fond d'une guerre épouvantable, une guerre fratricide, une guerre civile.
Mais moi, je sais pourquoi, sans vouloir être présomptueux.
Dites.
Mais parce qu'il n'y a pas une seule histoire pathétique d'amour comme ça impossible. Il y a trois formes d'histoire. Il y a l'histoire avec un grand H, le décor sur lequel vous posez votre roman. Il y a l'histoire en elle-même d'amour. Et puis, il y a aussi tout un tas d'histoires au pluriel. C'est-à-dire, Tariq, il y a aussi l'amour qu'il porte pour sa mère.
Oui.
Il y a sa sœur qui est très attirante et qui intéresse des types un peu louches parfois. Il y a tout un tas d'anecdotes très, très, très amusantes aussi dans le roman. Et ça empêche, en fait, de tomber dans une forme de pathos amoureux, quoi.
Oui, je ne voulais pas être Bernardin de Saint-Pierre et je ne voulais pas écrire... Mais... C'était quand même risqué. Et dans le fond, ce que j'ai adoré quand j'ai écrit ce livre, c'était que j'étais toujours sur la corde raide. Je me battais pour ne pas tomber dans le sirop. Il y a un livre qui m'a énormément aidé, que je trouvais de plus en plus admirable, tant que je l'ai lu plusieurs fois, c'est le livre de Pasternak, c'est Docteur Zhivago. Mmh. Parce qu'il a eu le même problème. Hein, ces deux héros ont très bien pu être d'un romantisme échevelé et finalement écœurant. Et ils sont très forts, l'un comme l'autre.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Didier Decoin pour Le Nageur de Bizerte, c'est chez Stock. Une histoire d'amour entre Tariq, un jeune docker à Bizerte, qui se cogne un jour littéralement contre une muraille d'acier qui est en fait un bateau de réfugiés, des Russes blancs qui ont fui la révolution d'octobre. On est en 1921 à ce moment-là. C'est un camp de réfugiés flottant finalement. Et il y a ça, Didier Decoin, dans votre roman. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'y voir des échos avec l'actualité. Ce sont des déracinés, des exilés.
Ce sont des
qui ne trouvent pas de port. Ils ne peuvent même pas sortir du bateau.
Ils n'ont pas ah non, alors c'est ça leur grand drame. C'est qu'ils ont quitté une Russie glacée sous la neige, ensanglantée par cette révolution. Et tout d'un coup, ils arrivent dans un paysage qui leur paraît idyllique. C'est beau, hein, la Tunisie. Alors, il y a ce ciel bleu, il y a ces palmiers, il y a les femmes avec des robes magnifiques et qui chantent. Et ils se disent, dans le fond, quel bonheur d'être arrivé au paradis. Et ils veulent descendre du bateau. Et à ce moment-là, on leur dit non, vous ne descendez pas, pas le droit. Pas le droit parce que vous êtes dangereux. Nous, qu'est-ce qu'on a? On va d'abord vous décontaminer parce que vous êtes peut-être, vous portez peut-être un virus. Alors, le Covid n'existait pas, mais il y avait un virus terrible dans l'esprit des Français qui était le bolchevisme, le communisme. Ils avaient peur que les réfugiés russes ne contaminent le port, puis la ville de Tunis, puis la Tunisie tout entière, puis etc., etc. Donc, interdiction de descendre du bateau. On pourra aller à terre quand? Quand nous aurons reconnu l'Union soviétique, ce qui peut prendre encore des années. Et ça a pris 4 ans. Et pendant 4 ans, ces gens sont restés, non pas prisonniers, parce qu'ils avaient tout de suite transformé l'idée de prison en autre chose, mais ils sont restés à bord de ces bateaux dont ils n'avaient pas le droit de descendre, et ils ont transformé leur prison en une sorte de ville flottante. On trouvait tout sur ces épaves. Ils avaient imaginé de construire une église, des écoles de danse et de musique, un théâtre, des restaurants, tout ce qu'il fallait pour la beauté des femmes, n'est-ce pas, des coiffeurs, maquillage, etc. Et ils vivaient là, en autarcie, n'ayant pas d'argent. Le seul moyen qu'ils avaient de se procurer de la nourriture, c'était d'échanger des choses, de troquer des choses qu'ils avaient pu emporter avec eux, des tableautins pour la plupart du temps, des petits tableaux. Et là, ils échangeaient contre des poissons, des fruits et des légumes. Et ils ont tenu bon comme ça pendant 4 ans. Et finalement, ils s'étaient tellement habitués à leur sort qu'ils n'étaient pas si malheureux qu'on l'imagine. Et puis un matin, l'amiral en charge de ce secteur est venu les voir, l'amiral français. Il leur a dit, il est 11h du matin, à 13h, tout le monde doit être descendu. Pour aller où? Où vous voulez, on ne peut plus s'occuper de vous. Maintenant, on vient de reconnaître l'Union soviétique, c'est bateaux.
Ça, c'est la dernière page, Didier Decoin.
Oui,
faut pas...
mais l'histoire de Tariq et de Yelena, elle n'est pas dévoilée, là. Hein.
Bien sûr. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous êtes un écrivain de marine. D'ailleurs, je crois que vous faites partie de la Société des écrivains de marine. Et puis, dans tous vos romans, on parle loin. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un bateau, mais qui ne voyage pas.
Non, il est mort. J'aime beaucoup le mot. Le mot est beau, épave. C'est une épave, ce bateau. D'ailleurs, il n'a plus de machine. Si on veut le déplacer, ne serait-ce que pour le changer d'endroit, de passer d'un quai à un autre, il faut un remorqueur, il faut... Voilà.
Ce qui fait qu'il est silencieux.
Ah, il ne fait aucun bruit. Si, alors, quand il y a du vent, comme il est troué de partout, c'est une sorte de tuyau d'orgue. Donc, il mugit, gémit, il éructe, il trompette, il fait des tas de bruits, mais qui sont pas des bruits normaux. De bateau. Et vivre à l'intérieur de ce truc est un exploit.
C'est surtout quand on est poursuivi, parce que Yelena, elle a fui, certes, elle est moins en danger que là-bas, mais elle est toujours, on lui en veut toujours.
Ah ben, elle a, la pauvre chérie, elle a un coup terrible qui lui est arrivé, c'est-à-dire que son père avait fait faire un portrait d'elle, grandeur nature, par un peintre qui, évidemment, l'avait... Pas besoin de l'enjoliver, mais enfin, disons, l'avait rendue aussi ravissante que possible. Et ça, c'était resté dans le petit manoir qu'ils habitaient en Ukraine. Et puis, un jour, une escouade de Russes et de
Cosaques,
etc., débarque dans ce manoir et ils tombent sur cette image qui est grandeur nature, encore une fois. Et le chef des Cosaques dit, cette fille, il faudra la trouver et il faudra lui couper le cou. Et ils sont pour ça, il faut qu'ils traversent toute la Russie, toute l'Ukraine, etc. Et donc elle sait qu'il y a une menace de mort une fatwa qui est lancée contre elle.
Cette idée de tableau est superbe parce que du coup, on la reconnaît, on l'a vu. Mais en fait, je vous imagine quand vous trouvez l'idée. C'est superbe, ça. Et il y en a plein des comme ça dans le roman. Des trouvailles. Comment vous réagissez quand vous la trouvez? Vous dites Eureka ou...
Je me lève, je fais les 100 pas dans mon bureau. C'est beau l'écriture, c'est beau la littérature. C'est beau quand on trouve. Quand on trouve pas, c'est épouvantable. Mais c'est une des choses que je préfère. C'est effectivement, c'est la trouvaille, la résolution du problème. Ou quand les pièces, c'est le puzzle. Les pièces s'assemblent. Ou c'est la chasse, on va dire la chasse photographique. Quand vous attendez de voir un animal extrêmement rare ou un oiseau qui n'existe que dans vos rêves, tout d'un coup il est là, perché sur une branche devant vous. Il vous regarde, il fait piou piou. Et vous, il suffit que vous appuyez sur le déclic et vous l'immortalisez à jamais sur une plaque photographique. Et c'est ça, écrire, c'est trouver. C'est pas inventer, c'est trouver. Des choses qui préexistent. Cette histoire, je pense que quelque part, elle existait dans ma tête depuis longtemps. Je ne la connaissais pas. Elle est sortie un jour, et à ce moment-là, j'ai emboîté le pas. J'ai suivi ses traces, jusqu'au moment où j'ai pu lui mettre le grappin dessus, et lui dire « tu es un livre ».
C'est pas la première fois qu'on croise des Russes blancs dans des romans, parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement romanesque en soi. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont fui la misère et qui arrivent pour trouver une autre misère parce qu'on veut pas d'eux, on les rejette, etc. Là, ce sont des gens qui avaient tout et qui ont chuté et qui n'appartiennent plus à aucun pays, et n'ont plus de biens, mais ont encore leur capital social, capital culturel, si on veut. C'est ça ce qui fait que c'est quelque chose d'un motif très romanesque.
Oui, je retrouve ça dans une image qui me terrorise à chaque fois. Quand je vois des films d'anticipation, il y a souvent à un certain moment un personnage qui doit quitter le vaisseau spatial pour X raison, pour laisser de l'oxygène aux autres ou autrement. Et il met sa combinaison et il part dans l'espace. Et on le voit s'éloigner du vaisseau spatial et on sait qu'il ne reviendra jamais. Mais il est toujours vivant dans sa combinaison. Son regard est toujours là derrière la verrière du casque. Sa respiration peut l'entendre. Et c'est un destin abominable pour le spectateur de cette image. C'est exactement ce qui arrive là, quand des gens sont exilés. Moi, c'est une chose qui me terrorise, l'exil. Vous voyez, dans je veux dire, une monstruosité, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, mais ce qui est effroyable dans la Shoah, c'est bien entendu l'extermination, c'est bien entendu les souffrances, mais c'est aussi peut-être, par-dessus tout, l'arrachement. Pas l'éloignement, pas l'exil, l'arrachement. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes comme une moule sur un rocher et un pêcheur dont vous ne voyez même pas le visage arrive, vous décolle, vous arrache à votre support, à votre vie, ce qui est vital pour vous, et vous savez que vous ne reviendrez jamais, vous collez sur ce rocher. C'est terrible.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre continue sur Europe 1, toujours avec Didier Decoin. Le nageur de Bizerte, c'est son nouveau roman chez Stock. On est à Bizerte en 1921. Et il est l'heure, Didier Decoin, d'ouvrir la porte, si vous voulez bien, de votre bureau, votre atelier, pour voir comment vous travaillez. À un moment dans le roman, la voix de Yelena rappelle à Tariq celle d'Abibam Sika. Mais alors, j'ai lu ça, je me suis dit, donc ça lui rappelle la voix de quelqu'un. Mais j'avoue, je suis allé sur Google, je ne connais pas Abibam Sika, mais je me suis dit... Il travaille en fait avec tout l'environnement des années 20. Oui. Comment dans votre bureau c'est organisé? Est-ce que vous documentez avant? Est-ce que tout est là en permanence? Est-ce que vous écoutez? Donc c'était une chanteuse tunisienne. Hein. Est-ce que vous écoutez Abibam Sika pendant que vous écrivez? Comment ça se passe?
Alors ça, j'ai cherché longtemps la voix de Abibam Sika et grâce à Internet, hein, c'est vraiment une mine d'or pour les écrivains. Je suis arrivé à trouver une trace d'une chanson d'elle, interprétée par elle, parce qu'il y a eu beaucoup de chansons de Habiba qui étaient...
Elle est morte en 1930.
Oui, et alors, elle a eu une vie, je ne la raconte pas là, on n'a pas le temps, mais elle mérite un roman, elle toute seule, une vie avec des événements tragiques et magiques, terribles. Et donc, cette voix, une fois que je l'ai entendue une fois, elle m'a fait un effet. Hein. Peut-être davantage que Oum Kalsoum, qui est aussi une très belle voix d'Orient. Elle est porteuse de soleil, la voix d'Abiba. Elle est porteuse de nuits parfumées. Elle est porteuse du goût sucré des pâtisseries orientales. Tout ça, on a l'impression c'est tout ce monde-là. Une voix, là, à la radio, on peut le dire, hein, une voix, c'est une personne entière dont qui n'a pas de visage, qui n'a pas de membres, qui n'a pas de regard, mais qui est là pourtant extrêmement présente. D'ailleurs, quand une personne que l'on aime disparaît, la chose à laquelle on attache beaucoup d'importance, c'est d'essayer de retrouver, par un moyen, au point de retrouver sa voix. Moi, je ne me rappelle plus. Heureusement, il y a des traces par interview. Je ne me rappelais plus, quand mon père est mort, je ne me rappelais plus le son de sa voix qui avait bercé toute mon enfance, qui avait été si importante pour moi. Et grâce aux enregistrements, on le retrouve. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir la voix de son père ou de sa mère enregistrée.
Mais alors, est-ce que autour de vous, sur votre table d'écriture, il y a tout un tas de livres d'histoire, les Russes blancs, la Révolution d'octobre, bien la sûr. Tunisie en 1920, etc. Parce que, par exemple, j'en prends encore un comme ça, mais le bateau serait Maskoun, c'est-à-dire hanté par un djinn, un Mouli, démon, quoi. Ouais. Ça, c'est pareil, ça s'invente pas. Vous le trouvez dans un truc, dans un
oui, dans, ça, dans un essai, ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux l'idée de savoir que un bateau peut être hanté. Lui, pas son environnement, le bateau lui-même.
Comme le Hollandais volant.
Quoi. Comme le Hollandais volant, qui était un fantôme à lui tout seul. Mon bureau est encombré d'éléments écrits, coupures de journaux, pages de livres que j'ai découpées, recopiées, photocopiées, etc. Et qui ont trait au travail que je suis en train de faire. Plus le fait que j'ai deux ordinateurs qui me permettent de passer sans arrêt d'un écran qui est celui sur lequel je compose le livre à une documentation qui est... C'est vraiment... Je ne chanterai jamais assez les louanges de l'électronique, l'invention de l'ordinateur pour l'écrire. Je me dis... Je pense aux souffrances de Balzac ou de Flaubert, mais de Balzac surtout. Quand il a dû chercher des documents. Alors, bon, les frères Goncourt aussi hein, se sont documentés, etc. Et ils en parlent beaucoup de leur documentation. Et ils allaient la chercher dans le vivant. Et nous, on a la chance formidable, nous les écrivains d'aujourd'hui, d'avoir à notre disposition cette banque sans fin de trésors, de références.
Mais donc, vous avez répondu à la question qui suivait, c'est-à-dire que vous écrivez sur un ordinateur et pas au stylo.
Ah oui, ma femme a eu beaucoup de mal à me faire écrire sur ordinateur au début. Elle m'en a acheté un, c'était les premiers engins, c'était une locomotive software, etc. C'était terrible. C'était vert, sur un écran vert.
Dans les années 80 ?
Peut-être même avant. Les tout premiers, c'était très compliqué en plus à faire marcher. Et c'était sur des disquettes. Qui étaient, bon. Et,
John L'Enfer 77, vous l'avez écrit sur ordinateur ?
Non. C'est le dernier que j'ai écrit sur simple machine à écrire. Mais qu'est-ce que j'ai regretté que... Alors donc, j'ai commencé sur ordinateur en disant « Non, j'ai horreur de ça, ça ne me plaît pas. » Et un an ou un an et demi après, je ne pouvais plus m'en séparer. Et aujourd'hui, quand j'ai ce qui arrive, une coupure de ça ne marche plus, je suis totalement affolé. Parce que voilà, mon monde a disparu, s'est englouti sous mes jambes, vous ne savez pas.
Mais alors, est-ce que vous écrivez, d'après ce que je comprends, et vous avez vos deux ordinateurs, votre documentation, vous ne pouvez pas écrire ailleurs que dans votre bureau ?
Non, j'ai toujours envié terriblement Sartre et Beauvoir de pouvoir écrire Boulevard Saint-Germain dans des cafés ou d'autres dans l'odeur des anisettes. Et non, je ne peux pas écrire ailleurs. D'autant plus qu'il y a un autre élément dont j'ai besoin, c'est la musique. J'écris en musique, non pas une musique que j'aime moi, mais une musique qui habille la séquence sur laquelle je travaille. Alors le matin, je prépare ma bande originale.
Ah ouais, la playlist d'écriture.
Voilà, et alors c'est souvent des... faut pas se fier, hein. On dit que j'ai pas beaucoup de goût, parce que j'ai parfois des choses bizarroïdes, mais parce que ce sont des morceaux musicaux qui collent parfaitement avec l'atmosphère de la scène, et qui non seulement m'inspirent, mais souligne, et je me dis, si c'était un film, voilà ce qu'on entendrait.
Vous avez parlé de votre femme, Chantal. Elle est encore dans le roman, en épigraphe. À Chantal, ma femme auprès de qui je voudrais nager jusqu'à la fin des temps.
Alors, je maintiens.
Quand moi je vais en reportage le jour du Goncourt, elle est là. Elle n'est pas au milieu de tout le monde. Hein, elle est en bas sur la terrasse, elle bouquine, elle vous attend, ou je ne sais pas, ou elle regarde, elle lit beaucoup.
Elle lit énormément, on ne lit pas voilà. Les mêmes choses.
C'est elle qui vous a offert l'ordinateur le premier, elle est là en régie avec nous, vous êtes perdu sans elle en fait.
Ah ben elle est très importante pour moi, oui, c'est un euphémisme. Est très importante. Elle ne sait pas ce que je fais. Je veux dire, par la quand j'écris un livre, je ne le lui lis pas, elle ne le lit pas. Elle attend qu'il soit non seulement édité, mais imprimé, publié. Et le jour où le livre sort officiellement, là, elle va l'acheter dans une librairie.
Elle va l'acheter.
Oui, l'acheter, le payer dans une librairie, et elle commence à le lire à ce moment-là. Et j'attends avec une angoisse terrible son verdict.
Elle est sévère.
Je crains qu'elle ne soit juste, ce qui est encore pire que sévère.
Bon, en tout cas, c'est beau, c'est bon, c'est gentil. Le nageur de Bizerte, c'est pas si gentil que ça d'ailleurs, de Didier Decoin, c'est chez Stock. Merci beaucoup Didier Decoin.
Merci beaucoup à vous.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre sur Europe 1 continue. Alain Bougrain-Dubourg a publié récemment chez Plon un dictionnaire amoureux de quoi à votre avis? Bah, dictionnaire amoureux des oiseaux, bien entendu. Je lui ai donc demandé s'il nous ouvrirait les portes de sa bibliothèque. Il a dit d'accord, il y a des oiseaux, évidemment, mais pas seulement. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Alors, il faut que je précise, On n'est pas chez vous, mais vous m'avez dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Je suis effectivement un obsédé des oiseaux, il n'y a que des livres sur les oiseaux. Et donc, dans votre bureau, là, je ne sais pas, il y a à peu près, allez, à vue de nez, je dirais... un millier à peu près d'ouvrages sur les oiseaux.
Oui, les oiseaux et autres bestioles quand même.
Oui, hein, parce qu'il y a des serpents, on va en parler.
Oui, par exemple.
Avant, je fais juste un petit tour du propriétaire. On est donc dans votre bureau, un bureau qui donne sur une petite place urbaine. Bon, on n'est pas au cœur de la nature. Hein. Et puis, il y a une vitrine avec... avec un crâne, des crânes de je ne sais quoi, en fait.
Émouvant. Ça, c'est un crâne de gorille, par exemple, qui m'a été donné, qui avait été braconné et offert par le Muséum national d'histoire naturelle. Ça, c'est une pierre avec des lichens que j'ai ramené d'Antarctique, parce que c'est un continent, l'Antarctique. Qu'est-ce qu'il y a ? Des coraux qui nous rappellent leur fragilité. Voilà, une course de taureaux mexicaine avec des petits personnages. Ici, c'est trop émouvant. C'est une carcasse, vous la voyez là ?
Une petite carcasse.
De tortue. C'est une carapace de tortue d'Hermann qui a brûlé dans le massif des Maures, dans le sud de la France.
Oui, parce que la tortue est toujours dedans.
Elle est toujours dedans, voilà, mais cramée malheureusement. Et puis voilà, des objets. J'aime bien ces petits souvenirs qui sont en général tous des cadeaux. J'achète très peu, c'est vraiment à travers les voyages, des échanges. Là, des origamis japonaises, c'est quand même admirable ce qu'ils arrivent à faire. Des oiseaux, le grand-duc, etc.
Il y a beaucoup de livres, mais juste avant d'allumer les micros, parce que moi, mes connaissances ornithologiques sont assez minces, il faut bien le dire, mais je connais une histoire en lien avec la littérature, c'est Ian Fleming, quand il écrit en Jamaïque le premier épisode de ce qui sera James Bond, se demande comment il va appeler son héros, il tourne la tête, et là, il tombe sur le livre d'un ornithologue qui s'appelle James Bond. Et c'est pour ça qu'il a appelé son héros comme ça. Je vous ai demandé, mais... Est-ce que vous avez le James Bond ?
Et non, je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui circule un peu dans les milieux d'ornithologues. Et c'est vrai aussi que les ornithos, ils font du renseignement, quand même. Ils sont un peu agents secrets parce qu'ils vont essayer de lever le voile sur les comportements des oiseaux. Voilà, on peut dire qu'il y a une certaine analogie.
On va plonger dans ces livres, tous ces livres. Simplement, je vais poser la question qui est en fait une évidence, mais quand on aime les oiseaux, on aime les entendre et les voir. Dans les livres, qu'est-ce qu'on apprend en fait ?
Oh, tant de choses. D'abord, l'expérience des autres. Il y a 11 000 espèces d'oiseaux sur la planète, et évidemment, je suis loin de toutes les connaître, ces espèces. Parfois, c'est plutôt encyclopédique. Ça permet d'identifier l'oiseau, mais bien souvent, ce sont des émotions partagées. Quand on se promène dans la nature à la rencontre de l'oiseau, Ben, on plonge dans un biotope, dans un milieu naturel. Ça peut être une forêt, une plage, ça peut être la campagne, que sais-je encore. Et là, ça nous invite à une communion avec la nature. Tout ça se raconte par les livres. Les émotions sont extrêmement fortes. Alors, il y a un truc étonnant parmi les ornithologues, c'est les cocheurs.
Cocher, ah oui, oui, oui.
Voilà. Ça veut dire que sur les 11 000 espèces, on veut en voir un maximum, ce qui n'est pas mon cas. Et il y a des gens complètement obsédés qui vont faire le tour de la planète pour passer 10 minutes avec un oiseau qu'ils n'auront pas vu, mais ils pourront cocher la case et dire « oui, je l'ai vu ». Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans la communauté ornithologue, personne ne met en cause celui qui a coché. Voilà, il y a des obsédés de la cause.
À partir du moment où on dit « je l'ai vu », tout le monde vous croit.
Voilà.
Et il y a eu un... Moi, je le sais à cause d'un film américain avec Owen Wilson, dont j'oublie le nom, mais je crois que ça s'appelle « La Grande Course », où en fait, c'est deux héros qui partent justement dans cette quête d'avoir vu le plus d'oiseaux possible dans l'année.
Voilà.
Et en fait, ils les voient, et une fois qu'ils l'ont vu, hop, c'est terminé.
Ouais, ouais.
Ils peuvent cocher, et tout le monde les croira.
Oui, et du reste, ce ne sont pas les meilleurs protecteurs, parce que leur obsession, c'est de voir, mais pas forcément de protéger.
Ah,
bon, et moi, le cocheur le plus grand qui nous a quittés, Jean-Marc Thiollet, rapaçologue, je crois qu'il était à 8000 coches sur 11000. C'était admirable.
Balbuzard, par exemple. Les noms des oiseaux, c'est déjà de la poésie.
Il
faut qu'on rentre dans les livres. Et j'ai vu tout à l'heure passer, il était un peu caché. Je l'ai sorti en disant, oh là là, faut qu'on en parle de ça.
C'est
au livre de poche. Et Dieu créa les animaux d'Alain Bougrain-Dubourg avec Marcel Kléban. Et alors, il y a une photo. C'est bien vous ?
Oui, c'est Yann Arthus Bertrand qui l'a fait. Je vous remercie de ne pas me reconnaître.
Ah non, mais vous avez une coupe très...
Ah ben, c'était l'époque.
Très années 80.
Ah ben oui, c'est les années même 70.
C'est un de vos premiers ?
C'est mon premier.
C'est votre premier ?
Véritablement, oui. Avec une préface de Brigitte Bardot, du reste.
Et comment ça s'est passé, la première publication ? Quelle a été l'émotion, éventuellement ?
Oh, ben c'était faire mieux connaître l'animal et surtout prêcher en sa faveur. Je voyais déjà dans les années 70 combien il était maltraité, à la fois dans notre comportement à son égard, c'est-à-dire que vraiment on générait des souffrances, mais aussi pour les espèces sauvages qui étaient amenées à disparaître. Donc je parlais déjà des bébés phoques et bien d'autres choses. Et voilà, c'est un bouquin du reste qui a été traduit en plusieurs langues et il avait fait son petit chemin.
Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez vu dans une librairie ou de la première fois que vous l'avez eu en main ?
C'est la grande émotion. C'est la grande émotion parce que moi, j'ai commencé à écrire en ayant la prétention d'avoir fait un article admirable que j'avais adressé à une revue qui n'existe plus, qui s'appelait « La vie des bêtes ». Je pensais que mon article, qui portait à la fois sur la taxidermie, la façon d'empailler les animaux, et l'herpétologie, la façon d'étudier les reptiles. Très honnêtement, je me demande comment j'ai pu faire un article pareil, parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. Moi, j'en trouvais un, parce que c'était deux passions. Et je l'ai envoyé, et ça a été dramatique, parce que je suis passé très resserré dans le courrier des lecteurs. Donc ça
c'est
m'a
déjà
appris.
Ça.
Ah, mais c'est déjà ça. Mais ça m'a appris l'humilité. Et après, j'ai vraiment beaucoup écrit. Oui.
Vous parliez de l'herpétologie. Et justement, je suis curieux et surpris de trouver un livre sur les serpents, qui sont ceux qui sont au ras du sol quand les oiseaux vont.
Oui, mais les serpents, ça a été ma première passion. Et je les aime beaucoup à bien des égards parce que ce sont des mal-aimés. C'est Victor Hugo qui disait « j'aime l'araignée, j'aime l'ortie parce qu'on les hait ». Eh bien, j'aime les serpents pour les mêmes raisons. Et ce sont des gens, j'allais dire, ce sont des animaux qui ne déméritent pas pourtant, mais qui ont très peu de moyens d'expression. Un serpent n'a pas de paupières, il n'a pas de membres pour exprimer son bien-être. Et donc, il faut faire un effort. Et quand j'étais gamin, vers 14-15 ans, au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle, on m'a initié à la capture, y compris des vipères. Et j'avais des vipères avec leur venin sur la main, et ben voilà, il fallait voir si elles allaient mordre ou pas. Et quand j'ai été mordu en fait une quinzaine de fois,
ah oui,
ce qui est très peu parce que je manipulais après dans mes expos itinérantes des serpents tous les jours. Et plusieurs fois par jour, même, je les présentais aux visiteurs des foires, expositions, etc. J'étais montreur d'ours avant d'être à la télé. Voilà.
Mais vous avez été piqué par une vipère, vous avez fini à l'hôpital ou...
Ah bah oui, plusieurs fois. Même à la fin, j'étais allergique au sérum. Donc, il a fallu que je me calme. Mais voilà, en même temps, c'était quand on se faisait du sérum, ça passait jusqu'à un moment où il y avait trop de sérum et là, ça faisait, c'était grave.
Et on s'immunise pas contre le venin ?
Non, absolument pas. Non, mais on m'a dit plus jamais manipuler de reptiles.
Mais qu'est-ce qui vous poussait à faire ça ? Au bout de la 15 fois, ça, au bout de la 3e fois, on arrête, non ?
D'abord parce que c'était mon métier. Moi, je montrais des serpents dans les écoles ou dans les foires agricoles. Donc, et puis, c'était une passion. Je trouvais ces animaux extrêmement beaux. Je trouvais que quand ils acceptaient de rester dans ma main, c'est qu'ils en trouvaient un certain confort et que d'une certaine manière, alors que tout nous séparait, il y avait une forme de communion. Et ça, avec des animaux qui pouvaient vous tuer, certains d'entre eux, je trouvais que c'était formidable. Il y avait en plus une espèce de défi à la mort.
Ouais, c'était excitant. Un peu de ça.
Ben oui. Oui.
C'est-à-dire qu'à la 10e fois, vous n'étiez pas du tout en panique. Vous étiez bon, alors là, je vais tomber dans les pommes. Il faudrait tout de suite appeler, s'il vous plaît, les pompiers.
Oui, oui. Merci beaucoup. Non, quand je me faisais mordre en public, eh ben, je disais, écoutez, ça tombe très bien. Je vais vous montrer exactement comment il faut procéder. Je me faisais moi-même une piqûre. Et voilà, bon.
Ah, c'était piqûre. Une fois qu'on est dans la, si on est dans la forêt, c'est garrot. Et le coup du canif, on aspire là.
C'est pas recommandé parce qu'on ouvre la plaie davantage et le venin va rentrer encore plus facilement. En général, il faut au contraire se calmer. Et on a, ça dépend où on est mordu, hein, mais globalement, on a quelques heures avant d'être vraiment dans une situation extrême.
Les oiseaux.
Oui.
Qui ont ma préférence, même si j'ai du respect pour les serpents. Hein. Les oiseaux, vous m'avez dit, il faut absolument qu'on parle du grand livre des oiseaux qui est là et qui est effectivement énorme.
Alors, c'est le livre de Jean-Jacques Audubon, qui était un Français, qui est né à Nantes et qui s'est installé plus tard aux États-Unis. Et c'est un livre admirable. Parce qu'il a été vendu, alors la collection Audubon originale évidemment, 8,6 millions d'euros. C'est deux fois le prix évalué de la Bible de Gutenberg. Voilà, il n'existe que 119 exemplaires au monde. Et là, j'ai un livre d'une reproduction. Alors, je regarde au hasard.
Qui ne coûte pas 1 million, celui-là.
Non, celui-là, il vaut quand même.
Il est très beau.
Et on voit très bien une chose, c'est des citelles, oui. On voit très bien que Audubon a placé, c'est ce qu'il y avait tout à fait nouveau, ces oiseaux dans un contexte naturel. Avant, c'était des natures mortes. Alors que là, ils sont en mouvement. Oui. Toujours, c'est ce qui a vraiment donné à l'œuvre d'Audubon une dimension internationale. C'est vraiment le... Est-ce qu'on va retrouver le pigeon migrateur américain ? Oh, il l'a fait, Audubon, évidemment. Regardez comme c'est de toute beauté.
Très beau, des pigeons encore.
Voilà. Alors, le pigeon migrateur, voilà, c'est lui.
Qui ressemble pas à un pigeon, quoi.
Non, on l'appelait aussi la tourte, en référence à la tourterelle. Vous voyez, cet oiseau que vous voyez là actuellement, c'est l'oiseau qui était probablement le plus nombreux au monde. Audubon nous raconte que quand il y avait des vols de ces oiseaux, c'était des milliards d'oiseaux qui survolaient le ciel pendant des heures, parfois des jours. On disait même qu'il neigeait, c'était les fientes laissées par ces oiseaux, tellement ils étaient nombreux. Et l'homme s'est acharné contre l'espèce, tapant les oiseaux à coups de bâton au début, après avec des fusils. Le dernier pigeon migrateur américain est mort au zoo de Cincinnati en 1914.
Ah, ça n'existe plus du tout.
Fini. Si vous voulez le voir, vous avez un exemplaire, un spécimen qui était au Muséum national d'histoire naturelle. Il y en a quelques-uns dans quelques musées de France. Il a totalement disparu, mais voyez ce qu'il y a d'étonnant. C'est que juste avant que le dernier meure, il restait quelques dizaines de milliers d'oiseaux. Et naïvement, on croyait qu'il suffisait d'un mâle et d'une femelle pour monter dans l'arche et pérenniser à nouveau l'espèce. Eh bien, ces oiseaux, trop peu nombreux, ont refusé de parier sur l'avenir et n'ont pas voulu faire de génération future parce qu'ils constataient qu'ils n'avaient plus les moyens de vivre correctement. Ça nous en dit long. Voilà. Au du bon. Pigeon migrateur américain.
Terminé, on s'en va. Pic à tête rouge, grand pic. Je parlais de la poésie des noms des oiseaux avec le balbuzard. C'est ouais. vrai que... Comment on nomme un oiseau, vous savez ?
Ah oui, c'est compliqué.
Enfin, collapte doré, martin pêcheur. Martin, c'est beau. Il est là.
Il y a le martin chasseur aussi qu'on trouve. Non, il y a beaucoup d'oiseaux non étranges. Gypaète barbu, enfin... Alors, très souvent, ce sont les noms des découvreurs qui vont aider à nommer l'oiseau, mais souvent aussi, c'est en fonction de son apparence. Par exemple, rouge-gorge, ben, chacun voit que la gorge est rouge. On a la gorge bleue en France également, qui est un petit passereau. Voilà, il y a beaucoup d'exemples. La mésange.
Ça, je ne connais pas.
L'engoulevent.
Engoulevent, bois pourri.
Voilà. Alors, c'est parce qu'il ressemble un peu à du bois pourri. Et l'engoulevent est un des rares oiseaux qui peut plus ou moins hiberner. C'est-à-dire qu'il va rester extrêmement tranquille. Voilà. Alors, là, vous voyez ces dessins toujours en mouvement d'Audubon. C'est là. Alors, tiens, là, on trouve pas mal d'oiseaux marins. Il a fait l'ensemble. Alors les labs là sont des seigneurs de la mer, des tueurs un peu aussi. Hein.
Ils sont ouais, il n'est pas l'air commode.
Prédateurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, bon. Alors tout ça sont des oiseaux américains.
Bécasseau.
Sanderling. On en a aussi chez nous. Voilà la sterne arctique. Tiens, celle-là, c'est celle qui est capable de faire l'aller-retour du pôle nord au pôle sud et retour dans l'année. C'est l'oiseau migrateur qui fait le plus long voyage. Et voilà, c'est un oiseau étonnant. La sterne Pierre Garin, qu'on trouve chez nous également. La royale, enfin bon, voilà. Guifette noire, tout ça sont des oiseaux marins qu'on retrouve chez nous. C'est un vrai bonheur.
Et comment on reconnaît les chants des oiseaux? C'est très compliqué quand même, j'imagine.
Alors, le chant des oiseaux, c'est vraiment
tout un art. Ça ne s'apprend pas dans les livres.
Ça ne s'apprend pas dans les livres. Maintenant, avec Internet, chacun peut identifier. Il y a beaucoup de registres qui permettent d'apprendre. C'est vraiment un art et c'est indispensable pour mieux connaître les oiseaux. Pourquoi ? Bah parce que bien souvent, les oiseaux, on les entend, mais on ne les voit pas.
Et, oui.
Et notamment au printemps, pendant la période de reproduction, au moment où les oiseaux chantent le plus, bah, ils sont souvent voilés par les feuillages. Donc, les ornithologues chevronnés sont capables d'identifier les oiseaux présents rien qu'en entendant leur chant. Mais dans les chants, il y a des trucs étonnants. Par exemple, on a pu comprendre et voir que les rouges-gorges du nord avaient l'accent ch'ti et les rouges-gorges du sud avaient l'accent provençal.
Vous faites la différence ?
Voilà. Moi, pas vraiment. Très honnêtement, il faut avoir l'oreille très, très affinée, très expérimentée. On va dire que les mélodies sont comparables, mais il y a une singularité locale. C'est pour ça que je dis provençal et ch'ti. Bon, c'est pas... Mais on voit qu'il y a des différences. Alors, il y a aussi des contextes délicats. Vous avez des oiseaux qui imitent d'autres oiseaux.
Ah, oui.
Alors ça, c'est pas simple. Mais
oui, il faut être bon pour dire « Ah, ça !»
Voilà, c'est un loriot qui ne va pas nous prendre. Il va pas... Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, pourquoi chantent-ils, ces oiseaux? D'abord, pour marquer leur territoire. Et ça, je trouve l'idée assez jolie. C'est une façon pour eux de faire la guerre. C'est-à-dire que, voilà, tu rentres pas chez moi, je chante pour t'empêcher de me faire du mal. Si les hommes, aujourd'hui, étaient capables de faire la même chose, ça serait quand même formidable. Et puis, c'est également, évidemment, pour séduire les femelles, bon, sont attentives au chant. Et puis, moi, j'ai la naïveté de croire que beaucoup d'oiseaux chantent pour le plaisir. Nous, on chante sous la douche, il n'y a pas de raison que... Vous voyez, là, j'ai un nid de tisserin qui est juste là. C'est pas beau, ça, regardez. C'est admirable. Et encore, ce n'est pas le plus beau.
On dirait alors, un chapeau un peu...
Oui, alors c'est suspendu. Ce sont vraiment des architectes, ces oiseaux, qui sont capables de construire ça. Ils rentrent par la petite entrée qui est dessous. Et le mâle va faire ce nid. Donc voilà, avec un, c'est un travail remarquable.
Ah ben oui.
Et une fois qu'il a fait son nid, ils seront plusieurs mâles à avoir fait de la même manière un nid remarquable. Ben la femelle va venir et puis va regarder le nid qui lui plaît le plus. Et donc elle va choisir le mâle qui aura fait le plus beau nid.
C'est le meilleur.
Voilà,
quoi.
Voilà. Et c'est comme ça que l'autre parfois. Ils sont désespérés, les pauvres mâles contents, travailler pour ne pas être élus. Alors, on raconte que certains vont détruire le nid, je ne crois pas. Mais bon, c'est un peu triste.
C'est... Mais, mais c'est ça un peu quand même la malédiction des fous des oiseaux. C'est-à-dire que quand on adore les chevaux ou les chiens, ouais. c'est pas dramatique d'en avoir, même s'ils sont un peu dans un enclos et tout ça. Ouais. Ils ne peuvent pas sortir trop loin non plus. Bon, mais ils sont libres quand même, plus ou moins.
Ouais.
Quand on est fan d'oiseaux, c'est compliqué d'en avoir en cage, quoi. Donc, on ne peut pas les observer.
Oui,
là, on n'a que les évocations. On a des peluches, des nids. On a un téléphone qui... Vous n'avez pas de chant d'oiseaux pour la
bien
souris.
Sûr. Mais ça, c'est pas... Je vous la ferai m'attendre.
C'est le téléphone fixe.
Oui, c'est autre chose, ça.
Mais alors, comment c'est vrai que c'est un peu une malédiction. Moi, j'avais des amis qui, quand j'étais petit...
Ah ben non, mais pour nous, il n'est pas question de mettre un oiseau en cage. Mais non,
c'est terrible.
Il y a même la belle chanson « Ouvrez la cage aux oiseaux », mais qui était une erreur terrible parce que, en vérité, les oiseaux de cage ont été domestiqués. Les serins ont été domestiqués. Et vous ouvrez la cage aux oiseaux, ils ne savent absolument pas se débrouiller dans la nature. Et malheureusement, bah, il faut les garder en cage. Voilà. Mais nous, c'est vraiment, à la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est vraiment la faune sauvage, les oiseaux sauvages. Mais ils nous offrent tellement par leur spectacle qu'on n'a pas besoin de les avoir en cage à nos côtés. Non, ça serait même insupportable.
Oui, mais c'est vrai que on peut s'en étonner, parce que pour un chat, ça choque personne de voir un chat dans un appartement. Il y a des fous, des chats qui ont... Bon, on pourra peut-être ça, c'est un débat qui va arriver d'ailleurs, mais immédiatement, un oiseau en cage, on se dit non, c'est trop triste.
Oui, parce que l'oiseau incarne la liberté, voilà, le vol, les grands espaces.
C'est quelqu'un qui insiste. Hein.
Ouais, c'est mon téléphone.
Et alors, c'est quoi comme bête, ça?
Ah ben, c'est un panachage.
Il y a
le coucou, bien sûr, mais il y a un peu de tout. Voilà, ça, c'est mon téléphone qui sonne.
Mais est-ce que vous avez eu un chant d'oiseau par personne?
Non,
c'est quelqu'un
que
vous aimez moins, c'est un autre chant et tout
ça. J'ai pas encore ça, mais il faudra que j'y pense. Voilà.
On donne, tout à l'heure, vous parliez des serpents qui sont détestés, et on donne comme ça une valeur sentimentale, ou en tout cas, un statut particulier, ennemi ou ami, aux animaux.
Oui, on se rend compte que c'est assez injuste, parce que ceux qui n'ont pas une bonne bouille ne déméritent pas pour autant et sont un peu mal aimés. Par exemple, ce n'est pas par hasard si le World Wildlife Fund, le Fonds mondial pour la nature, a pris le panda, le WWF, a pris le panda comme emblème. Il est hyper sympa. Voilà. Et si il avait pris, je ne sais pas quelle espèce, mais
alors qu'il vaut mieux pas trop se retrouver à côté d'un panda comme ça dans la
nature. Oui, en plus ils sont. Oui, c'est comme le koala. En Australie, j'avais été rejoindre des gens qui les sauvaient lors des incendies. Je vous assure que quand vous prenez un koala dans les bras, il n'est pas forcément aimable. Sa mort,
une peluche, quoi.
Voilà, malgré son apparence de peluche. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a une injustice. Il y a des animaux qu'on n'aime pas, qui ont une sale gueule, considérons-nous, et alors que d'autres, on voudrait les prendre dans les bras et les câliner. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble du vivant. Je trouve qu'on est dominant sur cette planète et qu'à ce titre, on a vraiment un devoir de solidarité à l'égard des plus faibles, dont du reste nous dépendons. Voilà.
Bon, il faut qu'on termine là-dessus quand même. Je crois que c'est
par exemple
la morale est là. Merci beaucoup, Alain Bougain-Dubourg.
Merci d'être venu visiter mon univers.
Voilà. Merci pour ces chants d'oiseaux. Et je rappelle le dictionnaire amoureux des oiseaux, c'est chez Plon.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Héloïse Goua, littérature jeunesse, et notre libraire de la semaine, Anne Burzynski, l'incroyable Anne Burzynski de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Et ben on commence avec vous, Anne, justement, avec votre roman que vous avez déniché dans vos rayons de la librairie.
Et oui, moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui des Lanceurs de feu de Yann Carson, qui était paru chez Sabine Vespizer, si vous vous souvenez bien, en septembre 2021, et en poche là cette année, en janvier 2023, donc l'occasion d'en parler ou d'en reparler.
Pas mal.
Donc ça se passe à Belfast en 2014. Alors on n'est plus dans l'époque des troubles avec un T majuscule, mais il y a quand même un petit héritage. On sent que c'est quand même un peuple qui est un petit peu en colère. Et en fait, tous les ans, ils ont une fête, un espèce de feu de joie presque institutionnalisé, c'est un mot compliqué. Et qui, donc tous les ans, ils ont leur feu de joie qui revient et qui leur permet d'avoir à la fois une nièce et une espèce de fête un peu particulière où ils déchargent leur énergie. Sauf que là, dans le livre, à ce moment-là, il y a un lanceur de feu avec un L majuscule qui va lancer les grands feux avec un G majuscule. Et là, on rigole plus, c'est plus genre le feu de joie annuel. C'est des feux qui prennent partout dans la ville. Et donc là, on est effectivement sur un roman social très prenant, mais qui va emprunter au réalisme magique et qui va glisser petit à petit vers du fantastique, avec des vrais éléments empruntés aux légendes, notamment une sirène un peu maléfique. Et en fait, ça s'incorpore, mais tellement naturellement. C'est un livre brillant, en fait, vraiment brillant. Moi, j'ai pensé à L'écume des jours, j'ai pensé... à La Conjuration des imbéciles, mais j'ai aussi pensé à Blackwater.
Ah oui,
donc vraiment, ah ouais, une vraie découverte littéraire, je suis bluffée. Pour ces deux aspects, vraiment, il est génial. Et je tiens à souligner vraiment le travail de Dominique Goiblanquet, qui est la traductrice, parce que franchement, chapeau quand même de traduire ce livre. Quoi.
Parfait, vous aviez quelque chose à ajouter, Sébastien.
Un feu avec une majuscule, parce que j'ai pas compris le...
Ah oui, alors en fait, c'est que les grands feux, enfin avec le G majuscule, ils sont écrits comme ça, parce qu'on sent que, un peu comme les troubles avec le T majuscule, on sent que ça va être quelque chose qui va entrer dans l'histoire de la ville.
D'accord.
Et que justement, c'est en ça
qui va changer le cours des choses.
Exactement, qui va changer le cours des choses. Et que c'est pas le fameux feu de joie annuel qui se passe dans la bonne humeur, où on sait que c'est à telle date et tout se passe bien. Là, on sent que c'est un événement qui va s'inscrire dans leur histoire et que c'est parce que c'est aussi assez terrible.
Les Lanceurs de feu, Yann Carson, c'est chez J'ai lu maintenant, c'est ça?
Exactement.
Merci Anne Burzynski. Héloïse Goua.
Oui, moi je vous présente aujourd'hui un album documentaire pour les enfants. Le titre, c'est Naître animal. C'est de Karine Granier-Defer et Marie Caudry. Ce livre nous apprend plein de choses sur les familles des animaux parce que comme chez les humains, il existe différents schémas familiaux dans le règne animal. Et je suis sûre, messieurs, madame, que vous n'êtes pas encore au courant des histoires vraies et étonnantes qui figurent dans ce livre.
Ça sent le
J'adore.
Quiz.
J'adore. Ouais, un petit peu, mais, à mon... mais là, si vous savez tout, moi je démissionne parce qu'il ne faut pas... Enfin, j'ai tout appris. Ça veut dire que vous coucherez moins bête ce soir et c'est pareil pour nos auditeurs. C'est pour ça que je suis ravie de commencer avec la première anecdote fascinante. Selon vous, que fait le poisson clown mâle si la femelle dominante de son groupe meurt?
Il change de sexe.
Mais... C'est très connu.
Par moi. Ouais.
C'est la seule solution valable.
C'est ça, parce que comme les escargots, génial. Cette espèce est hermaphrodite. Ouais, tous les poissons clowns à trois bandes naissent mâles, comme Nemo. Hein. Mais ils ont la capacité de devenir femelles. Et c'est plutôt pas mal de devenir une fille quand on est poisson clown, parce que toutes les femelles disposent d'un harem de mâles qui lui obéissent. Ça, vous le saviez, Sébastien?
Non, moi.
Ah, quand même. On continue. Est-ce que vous savez quel mammifère choisit son partenaire pour la vie?
Oh, c'est un oiseau, ça, non?
L'humain.
Pas toujours. Non, c'est le campagnol des prairies. C'est une petite souris, une sorte de petite souris toute mignonne qui est monogame. C'est d'autant plus adorable que cette bête est fidèle même après la mort. Donc s'il perd son partenaire, le campagnol terminé. N'en cherchera plus jamais d'autres. C'est joli, ça fait un bon roman d'amour, ça.
Ouais.
Les campagnols à la prairie. Et on finit avec une dernière. Et pourquoi les hyènes ont un côté très féministe, voire girl power?
Les
hyènes.
Je sais pas.
On les imagine pas.
À cause de leur humour.
Leur rire. Non, c'est pas spécialement girl power. Parce que je cite maman chasse et papa veille. En fait, ce sont les femelles qui partent à la chasse jusqu'à 6 heures par nuit. Et pendant ce temps-là, les mâles gardent les petits à la maison, à la tanière, pour les protéger des prédateurs. C'est donc la maman qui met du beurre dans les épinards. épinards, c'est girl power.
Alors, parce que vous considérez que garder les enfants, c'est pas mettre du beurre dans les épinards, c'est pas un travail, c'est ça? C'est ce que vous me dites?
Garder les enfants, on gagne rarement sa vie en gardant ses enfants,
sauf si
on
est nounou. C'est pas un travail rémunéré, en tout cas.
C'est pas un travail rémunéré. Alors, toutes ces histoires permettront aux enfants dès 7 ans de se la péter dans la cour de récréation. Nous, on pourra se la péter dans les dîners. En tout, 26 histoires sont racontées dans cet album de manière très ludique.
Moi, je viens d'imaginer le dîner où tu racontes les histoires de poissons jaunes.
Moi, c'est typiquement le genre d'anecdote que je raconte et que les gens sont contents d'accueillir.
Quand on sert du poisson, tiens, mais vous saviez, le poisson jaune.
Et puis, j'ai trouvé les dessins de cet album particulièrement réussis. Il y a un joli travail sur les couleurs, sur les contours. Vous savez, c'est le genre de dessin qu'on a envie d'observer pendant longtemps. Ça s'appelle « Naître animal » de Karine Granier-Defer et Marie Caudry. C'est chez Casterman.
Naître, N-A-I-T-R-E. Merci beaucoup, Héloïse Goy, Sébastien Bordenave, la bande dessinée.
Oui, ben moi, je commence par le meilleur dessinateur français du monde vivant. Oula. C'est Blutch. Alors, vous allez me dire, Nicolas, meilleur dessinateur français du monde vivant, c'est super subjectif.
Surtout que c'est Vooch.
C'est
Vooch, le meilleur.
Ah bon, d'accord. Bah, pour moi, c'est Blutch. Blutch, il commence à dessiner dans Fuite glaciale à la fin des années 80. Je suis allé voir son Wikipédia parce que je suis journaliste. Voilà. Et il y a marqué « Blutch est petit avec une tête disproportionnée par rapport à son corps. Il possède une lèvre et un nez d'une grande taille ainsi qu'une petite bouche. » Et après, j'ai vu qu'en fait, j'étais sur la page du Caporal Blutch.
Mais alors, il a ce nom à cause de ça?
C'est un des deux personnages des Tuniques Bleues, Blutch. Et c'est pas un hasard si Blutch, le dessinateur, s'appelle Blutch. C'est parce qu'il était fan du Caporal Blutch. Son dernier album s'appelle La mer à boire. Et il existe des BD balisés avec des codes, des règles à suivre dans les scénarios, les dessins. Et bien là, vous oubliez tout ça. Vous confiez votre ouverture d'esprit et votre envie d'être étonné et émerveillé à Blutch. L'histoire n'a pas vraiment de logique. Elle est comme une sorte de rêve éveillé. Ça semble crédible au début et après, ça bascule dans un non-sens absolu avec de la poésie. Faut se laisser aller. Dans les interviews, Blutch dit aussi avoir voulu
faire un album.
Bon, comme d'habitude avec Sébastien.
Tout de suite. Et en fait, il a dit j'ai fait un album à la papa, 70 pages. La mode aujourd'hui, c'est plutôt des romans graphiques de 300 pages, un peu bavard et tout ça. Lui, il veut faire un bel objet, quelque chose d'inclassable, superbe. Et c'est vrai qu'à chaque page, c'est un dessin. Donc lisez La mer à boire de Blutch. Deuxième BD, un manga. Nicolas, j'ai peur de vous ennuyer avec mes mangas, des fois.
Non, pas du tout.
Bon, super. Ça s'appelle Trillion Game. Trillion Game. C'est édité chez Glénat. Et on se croirait un peu dans un film avec Tom Cruise qui brasse plein de thunes. En fait, c'est le cas de Haru, un beau gosse prêt à tous les mensonges pour monter un business. Il devient vraiment efficace grâce à son pote Gaku. Lui, c'est tout le contraire. C'est un geek timide, duo classique. La belle Kirika, la fille du PDG de la grosse holding, la Dragon Bank, va les mettre au défi en leur proposant un concours, gagner un trillion de dollars. Comme je suis pas un homme vénal, je suis allé voir. C'est quoi un trillion de dollars? C'est quoi?
10 milliards. Non.
Ça fait 1 milliard de milliards.
Ça permet de voir venir.
C'est vrai que c'était plus qu'un milliard, mais d'accord, c'est carrément 1 milliard.
Donc si vous aimez les flambeurs et l'adrénaline que procure la moula, ce manga est fait pour vous. Il est dessiné par Ryoichi Ikegami, on en avait déjà parlé ici. Angoulême lui a fait une super expo. Il a eu un fauve d'honneur, Nicolas. Voilà. Et le monsieur, il a 79 ans et il continue toujours de dessiner. Ça s'appelle Trillion Game. Il y a déjà 2 tomes. Le mois prochain, il y aura un 3e. C'est un manga grand spectacle.
Magnifique. Merci beaucoup. Vous avez une citation pour terminer?
Allez, une citation d'Esther de Riyad Satouf. Vous savez, elle a 10 ans et elle parle musique. Elle dit l'air de cette chanson, c'est comme une gastro. Tu la chopes sans faire gaffe et après, tu la gardes des heures. Voilà, c'est vrai.
C'est d'un goût. Anne Burzinski, on rappelle.
Les lanceurs de feuilles de Yann Carson.
C'est parfait. Et Héloïse.
Naître animal chez Casterman.
Merci à tous les trois. Et Anne Burzinski, je rappelle, on vous retrouve à la librairie L'Écriture, à Vaucresson. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission. Mathieu Fred derrière la console. Et Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, le réalisateur.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.